Je suis chirurgien urologue. J'ai été fortement sensibilisée à la santé publique et c'est à ce titre que j'ai eu le plaisir de travailler avec, avec Hervé Maisonneuve. Et donc, j'ai une grosse activité de sexologie. Alors, la présentation que je vais vous faire, c'est en fait une vision de l'article qu'on a eu la chance de faire avec Pierre Foldès, Armel et moi. Donc pour le Lancet, donc, vous doutez bien que ça a été une aventure. Ça a été une aventure militante puisque Pierre Foldès, pendant des années, avait engrangé des données sur un système informatique et qu'il nous a fait confiance à Armel et moi pour analyser ces données qui sont donc des données de cohorte scientifique. Cohorte historique. Et vous vous doutez bien qu'en ayant comme cible le Lancet, c'était pas si facile que ça. Donc bien sûr, c'est là où Hervé Maisonneuve est intervenu et où on a pu avancer. Alors, donc, il y a un nombre impressionnant de patientes qui ont pu être opérées en plusieurs années, puisque à l'époque, on s'était arrêté à un peu moins de 3000 patientes. Donc l'âge moyen de ces patientes était d'environ 30 ans. Elles avaient été excisées à l'âge de 6 ans. La plupart des patientes avaient été excisées au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et on avait également eu la surprise de voir que 564 patientes avaient été excisées en France. Donc ce qui est assez remarquable dans cette cohorte, même si on a dû en fait... quelque part persuader les reviewers que c'était un bon résultat, c'est qu'on avait quand même 866 patients qui avaient un suivi à un an. Et ça, c'est pas si facile que ça. Donc, pour répondre aux précédents orateurs, je vais vous présenter le maximum de données qu'on a pu analyser. Et tout d'abord, les patientes... présentait un certain nombre d'attentes à Pierre Foldès. Et donc, il a pris l'habitude de standardiser tout ça. Et globalement, il y avait trois types d'attentes. Donc, les attentes identitaires, et par rapport à ça, on a eu pas mal de questions. Les attentes d'amélioration de la sexualité. Et la première attente, en fait, qui lui avait été exprimée lors de ses voyages humanitaires, c'était la douleur. Et c'est par rapport à ça que donc il avait inventé cette technique. Donc, on va revenir sur ces résultats, mais comme vous l'a dit déjà Sébastien Masdou, on obtient un excellent résultat esthétique et on obtient un résultat intéressant sur l'amélioration du plaisir clitoridien chez environ une personne sur deux. Et là-dessus reviendra, et particulièrement, j'essaierai de répondre un petit peu à Laura Beltran par rapport à son questionnement qui est plus que judicieux. Donc, pour répondre aux questions sur la technique, et ce sont les dessins de Pierre Foldès, vous voyez que le clitoris c'est un organe long, que l'excision en fait va emmener que le gland du clitoris, donc une toute petite partie, donc vous avez en face en B un clitoris normal. Donc on sait, vous avez en fait la fibrose qui a engainé le moyen clitoridien, qui l'a fait ascensionner, qui l'a plaqué contre la symphyse pubienne, et en E, vous avez la technique de libération du néogland de la symphyse pubienne avec une suture dorsale pour que le clitoris soit parfaitement bien repositionné. Et donc vous avez le résultat de ce clitoris repositionné avec le plus souvent la réfection des petites lèvres. Donc la plupart des patientes qui ont été opérées avaient des types 2 ou des pseudo-type 3 avec infibulation, pseudo-infibulation. Et il y avait quelques types 3 qui étaient de vraies infibulations. Et effectivement, dessous, on a le clitoris intact. Alors, les résultats qu'on a réussi... à identifier. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous voyez qu'on a utilisé l'échelle qui a été inventée par Pierre Foldès de manière pragmatique, c'est-à-dire qu'on a une classification sur le plaisir clitoridien en jamais de plaisir, sensation mineure, sensation plaisante sans orgasme, organes restreints et orgasme régulier. Et on a également les douleurs, donc avant la chirurgie, avec absence de douleur, inconfort mineur, douleur modérée, douleur forte et douleur qui empêche les relations sexuelles. Donc par rapport à ça, on a essayé de passer à la moulinette un certain nombre de variables. Et donc vous voyez qu'au cours des années, on a eu une diminution des formes douloureuses. Donc en fait, les attentes des femmes étaient plus la sexualité. C'est ce qu'on voit dans la colonne de gauche, avec une nette augmentation au fur et à mesure des années des revendications sexuelles. En dessous, c'est la répartition en fait, des signes de départ par rapport aux tranches d'âge. Donc là, on voit que les formes douloureuses sont équitablement réparties, quelle que soit la tranche d'âge, et que par contre, les revendications sexuelles sont sans doute plus importantes chez les personnes plus jeunes, et là encore, ça mérite d'être discuté. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu en post-opératoire ? Donc en post-opératoire, vous voyez qu'en fait, on a utilisé une grille d'évaluation qui regroupait un petit peu les deux précédentes. Donc là, ça n'a pas été forcément très facile, mais on s'en est quand même bien sorti. Alors, donc, comme vous a dit Sébastien Masdiou, on peut voir qu'il y a une forte amélioration de l'orgasme. Et donc la moitié des femmes qui présentaient un orgasme restreint avant la réparation rapportent des orgasmes réguliers après. Par contre, et c'est là où il faut vraiment approfondir les choses, même si on a très peu, il y a 12 patientes sur les 53 qui avaient un orgasme régulier et normal qui rapportent des orgasmes réduits. Au total, 20 patientes ont donc été aggravées en ce qui concerne le plaisir clitoridien. Pour la douleur, il y en a extrêmement peu, il n'y en a que 9, mais 9 patientes sans douleur avant chirurgie ont eu soit un inconfort post-opératoire pour la plupart, soit une douleur pour une patiente. Alors, ce qu'on a essayé également de regarder, c'est s'il y avait des facteurs pronostiques pré- et post-opératoires. Donc vous voyez que, en fait, sur ce tableau, on a donc un certain nombre de facteurs qui permettent de prédire une douleur préopératoire du clitoris. Par exemple, l'âge à l'excision fait partie de ces facteurs. Plus en fait, la femme est excisée tard, plus elle va avoir des douleurs préopératoires par rapport à notre série. Et de même, en fonction des pays. Donc vous voyez qu'en fonction des pays, on peut avoir des différences significatives dans ces douleurs préopératoires. La deuxième chose qu'on a regardée en préopératoire, c'est donc s'il y avait des facteurs qui étaient liés au plaisir clitoridien. Et là, on a un petit peu vu la même chose en ce qui concerne les pays, et on a vu un petit peu la même chose, mais en sens opposé, en ce qui concerne le plaisir clitoridien. En ce qui concerne le post-opératoire, et ça c'est important à diffuser comme information quand on veut opérer une patiente, dans d'autres séries, l'âge de la patiente au moment de la prise en charge n'a pas été prédictif de la récupération clitoridienne. De même, le pays d'excision n'a pas été un facteur qui a été significatif. Le résultat fonctionnel est corrélé aux attentes et aux symptômes préopératoires. Ça, bien sûr, c'est important de le savoir. L'aspect post-opératoire est significativement corrélé à l'année de prise en charge. Donc ça, ça permet de voir qu'il y a une courbe d'apprentissage et qu'il faut bien sûr en tenir compte et qu'il ne faut absolument pas diffuser cette chirurgie par mons et par vos, mais qu'il faut faire des vrais centres de référence, et ça on va en parler. Et l'âge au moment de la prise en charge et de l'excision ne sont pas prédictifs du résultat esthétique. La sexualité, c'est complexe, donc l'amélioration et l'aggravation peut être bien sûr liée à beaucoup beaucoup de raisons, et entre autres au rôle du partenaire. Donc il faut savoir qu'une femme qui vient se faire opérer est qu'on opère, elle ne vient pas par hasard. Souvent, elle est dans des étapes de vie. Et tous ceux qui ont l'habitude de ces réparations vous diront la même chose. C'est-à-dire que souvent, elle veut se réparer au-delà du clitoris. Et donc, elle est à une période charnière de sa vie. Et ça, vraiment, il faut qu'on soit tous conscients de ça. Il faut améliorer l'évaluation de la technique chirurgicale. Et donc, là, je me référerais à ce qu'on a cité dans le Lancet et à ce qu'Hervé Maisonneuve connaît bien. C'est ce qu'on appelle la collaboration idéale. C'est un outil qui a été proposé par la FDA. Hein. Donc, quelque chose de vraiment très sérieux. Donc, ça veut dire que il faut aller de l'idée, mais il faut être sûr que l'idée, on l'exprime correctement, vers le développement, l'exploration, l'évaluation et le suivi au long terme. Alors, donc, pour ceux qui sont intéressés, vous avez un certain nombre de papiers qui expliquent ces étapes d'évaluation chirurgicale quand on veut avoir une technique innovante et qu'on veut être sûr qu'elle rende service. Parce que vous vous doutez bien que ça, c'est le challenge. Et encore plus dans les mutilations que dans certaines maladies où on n'est pas dans du fonctionnel, ni même dans de l'agression, mais dans du vital. Donc là, on est vraiment, par rapport aux réparations de mutilations, dans une obligation d'évaluation et, en fait, d'adaptation par rapport aux résultats. Donc qu'est-ce que ça donne ? Ce plan idée, développement, exploration, évaluation, études à long terme, et surtout qu'est-ce que ça donne par rapport à l'état des connaissances actuelles. En noir, je vous ai mis tout ce qui semblait à peu près acquis. Donc l'idée initiale, innovation, planifier, expliquer, décrire, modification rapide de la technique, petite expérience d'un centre, détails techniques, faisabilité, technique stable, replication par d'autres. Donc il me semble qu'on en est à peu près arrivé là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? C'est clair qu'il faut qu'on raisonne en termes de bénéfice-risque, il faut qu'on tienne compte de la courbe d'apprentissage et il faut qu'on définisse mieux des critères de qualité. Il faut que l'acceptation soit plus large, parce que je peux vous dire que pour arriver à faire passer ce papier, et entre parenthèses, vous savez qu'il a été accepté le 8 mars 2012, et c'était le jour de la journée des femmes. Donc, il faut qu'on porte chacun la bonne parole, mais de manière concrète et de manière applicable. Donc, je vous ai mis en vert les essais randomisés comparatifs. Pour moi, ce n'est pas adapté, et ça ne le sera sans doute jamais, mais ce n'est pas incontournable. Et donc, il faut tenir des registres. Et donc ça, on va vous en parler demain. C'est le professeur Gay qui vous parlera de ça plus particulièrement. Il faut ne pas être isolé dans un environnement multiculturel et multiprofessionnel, mais faire appel aux sociétés savantes. Et donc, il y aura toute une table ronde consacrée à ça, à toutes les relations avec les sociétés, les régulateurs, les ONG, les institutionnels. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça va dans le sens de ce que Isabelle Vachemoutuguet vous a expliqué ce matin. Donc, améliorons la valeur, réduisons le gaspillage, parce que ça, Hervé Maisonneuve pourra vous en parler. Il y a beaucoup de techniques qui finalement meurent de leur belle mort parce qu'elles ne sont pas suffisamment portées, dans le bon sens du terme. Donc il faut des centres de référence. Il faudrait très certainement regarder, et ça ce serait intéressant, on l'avait évoqué au moment de la sortie de l'article, si on a un impact de la réparation sur les complications obstétricales. Parce que vous avez vu que ce matin, eh bien en fait, les complications obstétricales, elles grèvent lourdement la santé des femmes. Elles ont un coût humain et un coût financier. Et vous avez vu également que...
Just one comment. I'm afraid that the Egyptian study will not help you with the female sexual function index because it's validated on Egyptian in Arabic. You have a validated French female sexual function index, okay? The problem that you have to validate it in each nationality because each nation, it's different. The sexuality is different and the normal value for that nation may be different. I come from Saudi Arabia. I have a different population and I have a different score than Egypt. So your point about the female sexual, the Egyptian female sexual function index may not help you to evaluate. I think, as I will mention tomorrow, it's the ideal tool, it's the standard of care now for the sexual function assessment. But it has to be done before the surgery and after the surgery. Thank you.
Quand on regarde les valeurs de référence dans les différentes populations, que ce soit la population caucasienne, la population africaine ou la population arabe, on a à peu près les mêmes valeurs de référence. Et c'est vrai que malheureusement, moi, j'ai pas suffisamment eu l'occasion d'analyser les données qu'on a eues dans le cadre français des populations africaines avec ces questionnaires. Mais si vous voulez, on a l'impression quand même, on tombe toujours plus ou moins sur les mêmes valeurs. Et d'ailleurs, on le verra demain, puisque je serai également présente avec vous, même si c'est pas tout à fait mon sujet. On tombe quand même, après les mutilations, si on se place dans celles qu'on voit nous, alors c'est peut-être pas celles que vous voyez en Arabie Saoudite, mais en tout cas, en ce qui concerne les types 2, dans des dysfonctions sexuelles sévères, qui peuvent toucher quasiment tous les domaines de la sexualité, à commencer par l'orgasme. Donc ce sera fort intéressant d'avoir cette discussion demain.
J'ai juste deux questions par rapport à la reconstruction du clitoris. Si vous avez des données sur combien de femmes qui bénéficient d'une éducation sexo-corporelle, d'une thérapie sexologique avant la chirurgie, décident finalement de pas être opérées. Et si vous avez des données sur l'histologie de la fibrose périclitoridienne qui est enlevée pendant la chirurgie. On vient de finir une révision de la littérature sur les sujets qu'on a publié la semaine passée. On a pu identifier que 4 études et il y avait ces 2 informations. Tout le monde insistait sur l'importance de la, comme vous avez fait maintenant, de la prise en charge multidisciplinaire, mais on n'a pas de données sur combien de femmes bénéficient que de la thérapie médicale et sexologique.
En ce qui concerne la première question, donc en fait, moi j'ai travaillé un temps relativement court avec Pierre Foldès pendant 4 ans. Uniquement. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a eu une approche qui s'est faite de manière pragmatique. Il pourra d'ailleurs nous répondre s'il le souhaite, parce que c'est son travail. Donc en fait, il y a un certain nombre de femmes qui ont été prises en charge sur le plan sexologique, mais il faut savoir que en fait, on n'a jamais eu à Saint-Germain-en-Laye un centre de référence comme par exemple il peut être organisé à Trousseau, à Bichat, ou peut-être chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait peu de moyens qui étaient alloués. Il y avait vraiment toujours un système D, plus ou moins, autour de tout ça. Et c'est vrai que ces femmes arrivaient, elles étaient suivies, elles avaient des conseils, mais elles arrivaient déjà en sachant ce qu'elles voulaient. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément les mêmes populations qu'on voit partout. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix standardiser. Et il faut vraiment savoir ce qu'on appelle une prise en charge multidisciplinaire, mais ça, Saïda va nous le dire, parce qu'elle qui a fait un petit peu le tour des centres, elle s'est rendue compte que pour certaines femmes, c'était extrêmement traumatisant de passer d'un spécialiste à l'autre sans qu'elle n'ait rien demandé. Donc si vous voulez, ça c'est pour répondre à la première question et Saïda répondra un peu plus.
Tout à l'heure. Monsieur, vous avez une dernière chose et puis on passera au prochain.
Vous allez voir, c'est très rapide. Claude Richet du GAMS, on parle du Lancet à plusieurs reprises dans votre exposé et c'est très bien. Pourrions-nous avoir la référence du numéro dans lequel votre article est passé, parce que certainement que ça intéressera beaucoup de gens dans la salle.
Vous nous laisserez votre email et vous aurez le PDF.